Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici pour cette fin de journée. Et c'est un honneur que les organisateurs m'ont fait en me confiant cette conférence de clôture. Surtout, ne croyez pas qu'il y ait une relation quelconque entre le fait qu'ils sont étudiants à l'École d'économie de Paris et que j'en suis le directeur. La question à laquelle cherche à répondre le thème de ce cycle de journée d'études, à quoi servent les sciences humaines, est évidemment très pertinent lorsque on l'applique à l'économie, surtout dans la situation de crise ou de post-crise dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je crois que je supprimerai le point sur lequel les organisateurs de cette journée ont insisté pour vraiment revenir au point d'interrogation. Je crois que à quoi servent les économistes est une question qui se pose très légitimement. En tout cas, elle se pose de façon évidente dans un certain public, dans les médias. Et j'ai même entendu quelqu'un me dire un jour, je me demande pourquoi on n'a pas mis tous les économistes en prison après cette crise. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que les économistes n'ont pas prévu la crise? Je crois de façon peut-être plus importante, s'ils avaient été capables de prévoir complètement la crise, ils auraient peut-être été capables de l'empêcher de se produire. Et cette remarque m'amène presque immédiatement, directement, sur le sujet d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'années, on faisait un reproche au Fonds monétaire international de ne pas être capable d'empêcher des crises comme la crise asiatique, la crise argentine, la crise brésilienne, etc. etc. Et la réponse des experts du Fonds monétaire était de dire, mais il y a des crises qu'on ne peut pas arrêter, mais il y a beaucoup de crises qu'on arrête, et celles-là, vous ne les voyez pas. Et donc, c'est assez difficile d'évaluer le rôle d'un organisme comme le Fonds monétaire dans la stabilisation, dans la prévention des crises, dans la mesure où on n'observe que la partie la plus négative de ce qui se passe, les choses qui n'ont pas pu empêcher de se produire. Mais il est certain que beaucoup de crises ont été arrêtées, ont été prévenues grâce à l'action du Fonds monétaire, grâce aussi à l'action de la Banque mondiale. C'est à mettre à leur crédit. C'est à mettre au crédit, je crois, justement des économistes qui travaillent dans ces organismes et dans la façon dont ces économistes sont capables d'appliquer leur connaissance, leur intuition des phénomènes économiques à la réalité. Donc, cette question à quoi servent les économistes, certainement quelque chose qui est directement relié au thème de cette conférence sur le pouvoir des organisations internationales sur le développement, illusion, réalité. L'invitation à cette journée d'études, de façon très plaisante, faisait référence à cette plaisanterie bien connue de Winston Churchill qui disait « Quand vous mettez deux économistes dans une salle, vous aurez deux opinions différentes, sauf dans le cas où Lord Keynes est lui aussi dans la salle, dans quel cas vous aurez trois opinions. » On aurait pu compléter cette plaisanterie par la remarque d'un président américain qui disait qui regrettait que les économistes ne soient pas manchots, parce qu'ils leur reprochaient trop souvent de cacher leur hésitation ou éventuellement leur ignorance derrière des argumentations du type en anglais « on the one hand, on the other hand ». Et évidemment, des deux côtés, les propositions étaient tout à fait contradictoires, ce qui fait que la personne qui les consultait ne pouvait rien tirer des opinions de ces économistes. Ceci a une certaine importance pour ce que je vais dire, parce que j'ai bien peur de me retrouver dans la situation de l'économiste qui a encore deux bras, ou deux mains, et donc d'amener à la question qui est posée dans ce titre une réponse qui est effectivement nuancée et qui sera d'un côté et de l'autre. Alors, le débat, il était vraiment celui-là. Est-ce que vraiment les organisations internationales, aujourd'hui, ont un pouvoir d'influencer véritablement le développement d'un certain nombre de pays dans le monde, au pouvoir d'accélérer la résorption de la pauvreté dans le monde, ou bien, et est-ce qu'ils l'utilisent? On pourrait très bien imaginer que le pouvoir existe, mais qu'il soit mal utilisé ou peu utilisé. Et d'un autre côté, les critiques de ces organisations, voient dans ces organisations des bureaucraties qui n'ont qu'un seul et unique objectif, qui est de maximiser le bien-être de leurs bureaucrates. Et il y a probablement aussi une certaine vérité là-dedans quand on voit effectivement le statut et le mode de vie d'un certain nombre de ces fonctionnaires internationaux. Bon, je vais donc répondre de deux façons, enfin de façon nuancée à la question posée. D'un côté, je pense qu'effectivement les organisations internationales ont un vrai pouvoir. Je pense qu'il est de plus en plus plus intellectuel que financier, et peut-être plus politique que financier, pour affecter le processus de développement dans le monde. D'un autre côté, on est obligé de reconnaître que leurs résultats sont assez ambigus. Il est évident que des erreurs ont été commises dans le passé, qui tiennent, de mon point de vue, et c'est un des éléments, un des thèmes que je vais essayer de développer, qui tiennent beaucoup au fonctionnement de ces organismes, au fait qu'effectivement on a affaire à des bureaucraties et que le raisonnement économique a une certaine difficulté à être appliqué dans toute sa finesse quand il passe par la moulinette d'une bureaucratie. Et ce que je voudrais indiquer, ou ma conclusion, c'est véritablement le fait qu'il me semble qu'il y a une vraie capacité d'expertise technique dans les organisations internationales, qu'elle n'est pas suffisamment utilisée par elle-même et par leurs, entre guillemets, clients, et que c'est probablement dans cette direction-là qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Donc voilà, je vais prendre comme exemple d'organisation internationale la Banque mondiale, on pourrait dire la Banque mondiale et ses institutions associées ou analogues, le Fonds monétaire implicitement, les banques régionales de développement, parce que il me semble que c'est plutôt elle que l'on a en tête quand on parle d'organisation internationale et de développement, tout le groupe, toute la constellation des agences des Nations Unies sont plus orientées soit vers le conseil pur, soit vers la négociation, la concertation internationale. Il n'y aurait peut-être que le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui serait proche de l'activité directe sur le développement, mais qui fonctionne d'une façon qui est assez proche de la Banque mondiale. Donc, de nouveau, dans la considération Nations Unies, j'intégrerai plutôt le PNUD du côté de la Banque mondiale. Et donc, c'est la Banque mondiale que je vais prendre comme exemple. Il y a un point très important qu'il faut voir quand on parle de la Banque mondiale, c'est que c'est un groupe qui a plusieurs entreprises. Je vais parler particulièrement de deux d'entre elles. La première est la BIRD, la Banque internationale de reconstruction et de développement, qui est l'ancêtre du groupe Banque mondiale, qui a effectivement été créé en 1947, au moment des accords, un peu après les accords de Bretton Woods. Une autre composante du groupe Banque mondiale s'appelle, alors j'ai gardé le titre en anglais, qui est AIDA, le International Development Association, parce qu'en français ça fait AID, AID, et c'est relativement, ça prête à confusion, surtout quand on parle après d'aide au développement, c'est un peu difficile. Donc je garderai l'expression AIDA pour cette partie. Et AIDA est focalisée et spécialisée sur le problème des pays les plus pauvres. On parle de pays AIDA et de pays non AIDA. Donc il s'agit des pays les plus pauvres, il s'agit de l'aide ou des ressources que la Banque mondiale et les banques de développement régionales peuvent apporter à ces pays-là. Il y a d'autres composantes à l'intérieur de la banque. Il y a une composante qui opère uniquement avec le secteur privé, alors que la BIRD et AIDA opèrent uniquement avec des États souverains. Donc il y a la Société financière internationale qui fait des prêts à des entreprises privées dans les pays en développement. Il y a un organisme qui s'occupe de faire de l'assurance pour les investissements directs contre le risque souverain, c'est-à-dire les risques d'expropriation ou de modification de contrat. Mais je laisse ça de côté, je m'intéressais à ces deux principales composantes qui effectivement constituent l'essentiel de l'activité de la banque mondiale. Et je vais analyser les deux composantes de façon distincte, parce que en les mélangeant, il me semble qu'on introduit une certaine confusion dans l'opinion qu'on peut avoir de l'activité de la banque. Donc je vais commencer par la BIRD et je vais continuer par AIDA, ça pour aller un peu plus vite dans le cas de AIDA. Mais dans le cas de AIDA, je voudrais faire le lien avec la question plus générale de l'aide publique au développement qui concerne non seulement les organismes multilatéraux, donc les organisations internationales, mais aussi concerne les agences bilatérales d'aide au développement, qui représentent une part très importante de l'aide publique totale au développement. Donc je commence par la BIRD, et je pense que le fil historique est probablement la meilleure façon de comprendre l'évolution de cette composante de l'activité de la Banque mondiale et en même temps les difficultés qu'elle a pu rencontrer en chemin et la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, qui d'une certaine façon n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était au départ. Au départ, qu'est-ce que c'est que la BIRD ? C'est une invention extraordinairement ingénieuse. On pourrait parler, je parle ici, d'une banque coopérative. Alors c'est un peu bizarre de parler de coopérative. Dans quel sens une coopérative ? Bien, tout simplement, un certain nombre de pays se mettent ensemble, dont les pays développés. Chacun amène du capital dans un organisme bancaire, au prorata de sa richesse, donc les pays développés évidemment apportent plus, et cette banque, sur la base des fonds propres apportés par ses membres actionnaires, lève du capital sur les marchés financiers et prête ce capital à des économies en développement qui ne peuvent pas accéder à ces mêmes marchés du capitaux, s'ils peuvent le faire, ne peuvent le faire qu'avec des taux d'intérêt extraordinairement élevés parce que les opérateurs privés sur ces marchés considèrent que les risques sont très importants. Donc c'est vraiment une coopérative dans laquelle ce qui est mis en commun pour l'ensemble des pays, et notamment pour les pays en développement, c'est la signature des pays les plus riches qui font partie de l'actionnariat. C'est la signature dite triple A, la confiance absolue que l'on a dans cet organisme bancaire. On sait que la probabilité pour que cet organisme ne rembourse pas les emprunts qu'elle lève sur les marchés financiers est extraordinairement faible. Moralité, cet organisme peut lever des fonds à des taux d'intérêt qui sont le minimum qu'on peut obtenir sur le marché. Alors, l'intérêt pour les économies en développement, c'est évidemment d'avoir des fonds prêtés par un organisme bancaire à un taux beaucoup plus faible que ce que pourrait offrir une banque commerciale internationale. Et on va voir que dans l'évolution, c'est cette différence entre ce que peuvent offrir les banques commerciales internationales et ce que peut offrir un organisme comme la Banque mondiale qui est au plancher du marché. Cette différence va diminuer au fur et à mesure du temps et c'est ça qui va effectivement modifier le rôle de la Banque mondiale aujourd'hui. Deuxième point important à signaler au moment de la création de la banque, c'est une banque de projet. On va voir un banquier en lui disant « Voilà, j'ai un projet de construire une maison, j'ai un projet de construire une entreprise, de créer une entreprise qui va faire ceci, ceci, cela. Est-ce que vous me prêtez de l'argent pour ce projet-là » Le banquier regarde le projet. S'il est convaincu, dit « D'accord, banco, je vous prête de l'argent, allez-y. » C'est ce que fait la Banque mondiale avec, comme client, les États souverains. Et qu'est-ce qu'elle finance ? Elle finance, surtout au départ, des ouvrages d'infrastructure, c'est des barrages, c'est des systèmes d'électrification, c'est des systèmes de télécommunication, des voies de chemin de fer, des routes, etc., etc. Et elle le fait, étant donné le risque qu'elle pressent chez ses emprunteurs, parce que, bien entendu, il y a un risque qu'un emprunteur africain ou latino-américain ou asiatique ne rembourse pas, la banque surveille ces projets de façon extrêmement étroite. Il y a une analyse de la faisabilité, une analyse de la rentabilité économique. Lorsque le projet est mis en œuvre, il y a une surveillance continue du projet. Et à la fin, il y a une évaluation du projet pour voir si tout a été bien fait et si éventuellement les résultats sont ceux qui étaient attendus. C'est très important de garder ça en tête parce que la structure de la banque, la façon dont elle raisonne, dépend énormément de cette culture initiale qui est cette banque de projet. Je crois que c'est tout ce qu'il faut savoir sur le point de départ, donc ce qui s'est passé avec la BIRD dans les années 50, 60, 70. Tournant a lieu vers le début des années 80 avec la crise économique qui a touché l'ensemble de l'économie mondiale vers le milieu des années 70, c'est-à-dire la crise pétrolière et les problèmes qui s'en sont suivis. Je vous ferai remarquer que déjà à cette époque, la crise pétrolière a provoqué une chute importante des taux d'intérêt dans le monde, a provoqué un excédent de fonds prêtables. Et c'est ça qui a conduit à une crise mondiale qui s'est terminée en 82 avec cette fois-ci une hausse importante des taux d'intérêt mondiaux. C'est assez intéressant de voir que cette chronologie n'est pas complètement différente de la chronologie de la crise dans laquelle, dont on espère être en train de sortir avec un certain optimisme. Quoi qu'il en soit, on a ces pays en développement qui, à l'époque où il faut recycler des pétrodollars, sont démarchés par des banquiers commerciaux internationaux qui leur font des propositions de prêts extraordinairement avantageuses, et ces pays s'endettent. Jusqu'au jour, en 1982, il y a une reprise en main du processus inflationniste par les États-Unis pour casser l'inflation. Les taux d'intérêt augmentent de façon vertigineuse et des pays qui étaient fortement endettés se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leur paiement d'intérêt. D'où déficit de leur compte courant, d'où impossibilité de rembourser les créanciers, etc., etc., et des crises successives. Alors, face à ces crises successives, quelles sont les interventions? Le Fonds monétaire, dans les accords de Bretton Woods, est l'agence qui était censée intervenir dans ce genre de situation, être le prêteur des derniers ressorts et imposer des politiques d'ajustement aux pays dans des situations difficiles. La crise était d'une telle ampleur à l'époque que le Fonds monétaire ne pouvait pas faire face seul au besoin de financement de l'économie qui était en crise. Et a fait appel à la Banque mondiale. Et le partage des tâches a été, le Fonds monétaire c'est plutôt le court terme. On essaye de rétablir la solvabilité à court terme ou la liquidité à court terme dans une économie en crise. Et la Banque mondiale avait une responsabilité à plus long terme de réaliser l'ajustement de la structure de l'économie pour qu'elle puisse fonctionner de façon efficace et ne retombe pas dans les mêmes écueils que ceux qui avaient provoqué la crise. Et c'est là qu'il y a un véritable tournant, parce que voilà soudainement qu'on demande à des gens qui géraient des projets, des barrages, des routes, de gérer des programmes macroéconomiques. On leur dit, maintenant, votre problème, c'est d'ajuster la Bolivie. Et ça n'est plus d'aller construire des routes, de faire des barrages, c'est d'intervenir dans le système économique bolivien, de dire voilà comment il faut réformer la fiscalité, voilà comment il faut réformer la façon dont fonctionne le système financier, voilà la façon dont il faut réformer ou éliminer les subventions à des produits de consommation, etc., etc., pour que cette économie fonctionne de façon efficace et sans risque de déficit, sans risque de crise majeure. Et là, on voit bien qu'il y a un décalage. Soudainement, on demande à des banquiers de faire un travail qui n'est pas le leur. Et on demande à des spécialistes microéconomiques de devenir des spécialistes macroéconomiques. Et en plus, on demande ça à des bureaucrates. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, il y a une connaissance économique qui est assez forte. Il y a, et c'est certainement quelque chose qui va mettre au crédit de ces organismes que sont le fonds, la banque et d'autres, il y a un niveau, une qualité du personnel qui est tout à fait extraordinaire. Il y a des gens qui ont l'intelligence économique des choses. Mais le problème que l'on a, c'est qu'ils ont affaire à des bureaucrates pour appliquer les recommandations qui sont faites. Les recommandations, c'est quoi? C'est évidemment d'avoir une politique macroéconomique qui est à peu près saine, dans laquelle on ne va pas faire du déficit pour faire du déficit, dans lequel on ne peut pas faire de l'inflation pour faire de l'inflation. La recommandation, c'est d'avoir une structure économique qui soit relativement efficace. S'il y a des entreprises publiques qui sont complètement inefficaces parce que extraordinairement corrompues ou simplement destinées à créer de l'emploi public pour satisfaire une certaine clientèle, peut-être que dans ces cas-là, c'est intéressant de penser à privatiser cette entreprise s'il y a effectivement une régulation possible de l'entreprise privatisée qui existe et si la concurrence existe. Et le problème de ça, c'est qu'un corpus s'est progressivement formé, fortement influencé par le changement dogmatique qui avait lieu à la même époque dans le monde développé. On peut se rappeler que 79-80, c'est tout de même l'arrivée de Mme Thatcher et de M. Reagan dans les deux grandes économies. Et on voit bien que c'est un renversement de la façon de voir l'économie publique. Les privatisations, la dérégulation, ça commence à ce moment-là. Et bien ça se transmet au programme dits d'ajustement structurel qui vont représenter une grande partie des activités de la Banque mondiale dans toutes les années qui vont suivre. Et ce corpus qu'on a appelé le consensus de Washington, finalement, a des éléments qui sont très très bien. On n'a rien à dire contre le fait que dans certains cas, il faut déréguler. On n'a rien à dire contre le fait que dans certains cas, il y a des subventions à des produits qui doivent être modifiés ou doivent être remplacés plutôt par des transferts en espèces. Le problème de ce consensus de Washington, appliqué dans une bureaucratie, c'est qu'il est appliqué de façon aveugle. Et un bureaucrate, quand on lui dit « Écoutez, c'est votre responsabilité de savoir quand il faut privatiser, quand il ne faut pas privatiser », le bureaucrate ne va pas accepter cette responsabilité-là. C'est-à-dire, c'est trop compliqué, donnez-moi les règles. Dans quel cas est-ce qu'il faut que je le fasse? Dans quel autre cas il faut que je ne dois pas le faire? Et si les économistes patentés disent « Voilà les conditions, mais on ne peut certainement pas tout décrire complètement dans un guide de quelques pages, tout le contexte correspondant à une économie nationale », eh bien on est dans la situation dans laquelle finalement les règles ont été appliquées de façon aveugle, et effectivement il y a eu une dérive dogmatique tout à fait importante durant les années 80, le début des années 90, dans lesquelles il y a eu ce mouvement de privatisation, de dérégulation, de libéralisation un petit peu à tout vent du commerce international, alors que là encore, quiconque analysait de près un pays sait que, oui, c'est bien de libéraliser, mais pas éventuellement de libéraliser tout d'un seul coup. Il faut commencer par certains secteurs qui sont importants parce qu'ils guident éventuellement des secteurs exportateurs, et il faut faire les choses de façon relativement intelligente au lieu d'arriver et d'avoir une sorte de libéralisation du commerce sur l'ensemble des produits. Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment eu une dérive et où l'efficacité de la banque a énormément diminué. Et effectivement, quand quelques années plus tard, on a commencé à essayer d'analyser les résultats de ce processus d'ajustement structurel, les résultats n'étaient pas formidables. Alors, dans certains cas, ils n'étaient pas formidables, non pas parce que les recommandations étaient très mauvaises ou étaient malvenues. Les résultats n'ont pas été formidables parce que les recommandations n'ont pas été suivies, purement et simplement, par les pays auxquels on prêtait de l'argent. On a vu des prêts d'ajustement structurel qui étaient donnés à répétition au même pays, en sachant très très bien que le pays n'avait pas du tout respecté la conditionnalité qui venait avec la tranche précédente du prêt. Donc il n'y a pas que la responsabilité des bureaucrates qui est à mettre en avant dans cette histoire-là, mais certainement elle est à mettre en avant. Cette dérive dogmatique a fait des dégâts très importants pour l'image de la Banque mondiale. Je me souviens que moi, quand je suis arrivé dans le milieu des années 2000, début des années 2000, et que j'ai eu une réunion avec beaucoup de responsables pays à l'intérieur de la banque, je leur dis ce qui est absolument essentiel, c'est de prendre en compte la spécificité des pays. Il n'existe pas une règle, il n'existe pas ce qu'on appelle une best practice qui s'applique absolument dans n'importe quel pays du monde. Chaque pays est particulier et vous devez absolument le prendre en compte. Et j'étais très étonné de voir que ce discours-là était un discours qui étonnait les gens, parce qu'effectivement, la logique d'une organisation de ce type-là, c'est d'avoir des recettes qui sont un peu passe-partout, qu'on s'échange entre l'Asie, l'Afrique, le sud de l'Afrique et le nord de l'Afrique. Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment eu une dérive. On est en train d'en sortir. Je crois que les choses vont dans le bon sens, mais il y a effectivement eu un dégât de première grandeur qui a été commis. Dernière partie, l'émergence. Par émergence, je veux dire l'apparition des pays émergents. Années 90, d'une part, on a une croissance qui s'accélère dans un certain nombre de pays, notamment en Asie, pas seulement la Chine, mais c'est aussi l'Inde, c'est aussi le Bangladesh, c'est aussi le Sri Lanka. Donc, une accélération du Vietnam, évidemment, une accélération de la croissance dans cette partie du monde, une amélioration ou une modernisation des marchés internationaux du capital. Les banques commerciales fonctionnent de façon beaucoup plus efficace. Elles sont beaucoup mieux armées que précédemment pour traiter du risque souverain. Et la moralité, c'est que le coût d'emprunter sur les marchés mondiaux diminue de façon absolument considérable pour tous les pays qui sont à un niveau de revenu intermédiaire, entre intermédiaire et haut revenu. quand on parle de la Chine, évidemment, quand on a un pays qui épargne des sommes aussi considérables qu'elle le fait, le problème du financement de son développement ne se pose pas. Mais je vais vous donner un exemple de l'évolution du coût de financement dans les pays émergents. Sur la courbe que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le spread, la prime de risque souverain. C'est l'écart entre ce qu'on doit payer, ce que doivent payer ces pays-là pour emprunter un dollar ou un million de dollars de plus, par rapport au coût d'emprunter un million de dollars sur le marché international, disons à Wall Street, quand on a justement une signature triple A. Ce que vous voyez, alors vous voyez qu'il y a des sautes dans cette courbe qui correspondent à différentes crises. Dès qu'il y a une crise, qu'elle soit asiatique, russe, etc., ou mexicaine, immédiatement, il y a une sorte de contagion, et tous les investisseurs et tous les marchés se disent « Attention, les pays émergents, c'est dangereux, on n'y va pas, ou si on y va, on demande vraiment une prime importante. » Mais ce qui est important, c'est que la courbe, le trend, est définitivement descendant. On s'arrête avant la crise présente. Si on avait mis la crise, on aurait vu de nouveau une petite pique exactement au moment de la crise, mais qui est retombée très très rapidement. Aujourd'hui, en moyenne pour les pays émergents, le coût de l'emprunt, c'est entre 1,5 et 2% de supplément par rapport au taux qu'on observe sur les marchés financiers. Quelle est l'application de ça? L'application de ça, c'est que les pays émergents, ils ont de moins en moins besoin de passer par la Banque mondiale. La Banque mondiale, quand elle leur prête de l'argent, elle met énormément de temps. Il faut que ça passe devant le conseil d'administration. Il faut convaincre le conseil d'administration que l'argent va être bien utilisé, que si jamais il faut construire une route, elle ne va pas passer à travers une réserve indigène, que toutes les précautions ont été prises pour éviter qu'il y ait de la pollution quand on a créé une centrale électrique. Et ça prend des mois et des années quand les mêmes pays vont voir HSBC, vont voir le Citigroup ou UBS. On leur demande rien. On dit, bon, où est-ce qu'il faut que je signe? D'accord, vous voulez peut-être combien de millions de dollars? Vous m'arrêtez quand vous voudrez plus de zéro. Et on signe et ils ont leur chèque immédiatement. Et à cause de ça, l'activité de la banque a considérablement diminué. Je vais vous montrer, c'est un autre graphique qu'on a ici. Alors, je vais peut-être passer par celui-là en premier. La courbe en rose, c'est l'activité de prêt de la Banque internationale de reconstruction et développement, la BIRD. C'est en milliards de dollars constants, donc on a corrigé ça de l'inflation. Donc vous voyez qu'à partir des années 70, il y a cette grande montée jusque les années 90. Et puis, il y a un plafond durant les années 90. Et puis, à partir de la fin des années 90 et années 2000, il y a une chute qui est vertigineuse. Et puis, il y a une remontée qui est complètement à la fin, qui est 2009. En 2009, effectivement, beaucoup de pays, le Brésil, le Mexique, ont voulu emprunter de l'argent pour être sûr qu'ils arriveraient à faire face devant n'importe quelle attaque spéculative contre leur monnaie. Sont allés voir la Banque mondiale, est-ce que vous acceptez de nous prêter de l'argent? Mais déjà à ce moment-là, la banque avait complètement changé sa façon de procéder et elle était déjà arrivée à ce que j'appelle ici la banque commerciale, dans la mesure où les exécutifs de la banque ont dit « Mais les gens n'empruntent plus, les pays n'empruntent plus chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben, on va simplifier toutes les formalités. On va éventuellement avoir la possibilité de leur prêter du jour au lendemain et de valider ça ex post avec notre conseil d'administration, à partir du moment où on a affaire à des pays qui sont bien gérés, qui ont une bonne réputation sur les marchés internationaux. Et en fait, progressivement, la banque est en train de s'acheminer vers un rôle qui est uniquement un rôle de banque commerciale. La partie développement, la partie projet, et éventuellement la partie programme, participer à une stratégie de développement est quelque chose qui disparaît petit à petit. Donc, c'est une histoire qui est un petit peu triste. Elle n'est pas complètement triste tout de même. Parce que, je terminerai une présentation de la BIRD sur ce point-là, il y a un pays qui, enfin, il y a plusieurs pays, mais il y en a un qui donne effectivement pas mal d'espoir, c'est de nouveau le cas de la Chine. La Chine n'a aucun problème de financement international de son développement. Néanmoins, la Chine, bon an, mal an, emprunte 2 milliards de dollars à la Banque mondiale. Pourquoi? Elle le fait simplement parce qu'avec les 2 milliards de dollars, ce que la Chine obtient, c'est pas tellement un moyen du financement, mais c'est de l'expertise technique dans un certain nombre de domaines. Domaines dans lesquels la banque a une énorme expérience, qui peut être l'électrification rurale, qui peut être des systèmes de santé ou le développement de systèmes de santé, qui peut être la modernisation d'un système financier, qui peut être la construction urbaine, du transport urbain. Dans tous ces domaines-là, effectivement, la banque a encore une capacité d'expertise considérable. Et ce que cherchent les emprunteurs, c'est cette combinaison entre un financier qui va regarder de près les projets qui sont financés à partir de l'argent qu'il prête et qui apporte cette expertise technique. Et là, il y a un modèle qui est vraiment important. Combien de temps il va durer, on n'en sait rien. Il est exact qu'à un moment ou un autre, enfin, la demande en termes d'expertise technique de la part des pays émergents, le niveau évidemment augmente au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, la Chine demande en expertise technique choses qui sont différentes de ce qu'elle pouvait demander il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, l'expérience de la banque dans le développement rural était importante. Ça devient beaucoup moins important aujourd'hui. Et donc, il y a éventuellement cette course vers l'expertise technique qui est véritablement demandée. Mais je crois que dans cette combinaison prêteur et expert technique, c'est là que réside la véritable contribution que peut apporter la banque et que peuvent apporter les experts, y compris évidemment les économistes de la banque. J'en viens maintenant à la deuxième volet qui est cette Association internationale de développement, AIDA. Cette partie de la banque s'intéresse uniquement aux pays pauvres. Et l'idée est de dire que finalement, c'est des pays très pauvres, ils vont avoir du mal à rembourser des prêts, même si ces prêts sont consentis avec des taux d'intérêt relativement bas, ceux du marché. Donc on va bonifier ces taux d'intérêt et on va donner à ces pays pauvres des conditions de prêts qui sont très avantageuses. En fait, le modèle de base, c'est un prêt à 40 ans, 10 ans de grâce, c'est-à-dire que le remboursement ne commence qu'au bout de 10 ans après la signature du prêt, et à taux d'intérêt zéro, plus exactement 0,5%, qui est simplement les coûts administratifs de gérer ces opérations-là. Et c'est le même système que pour les pays émergents, les pays à moyen revenu, si ce n'est qu'il y a effectivement ce prêt bonifié. D'un autre côté, la banque ne va pas chercher les fonds à prêter sur les marchés internationaux. La banque les obtient directement de la part des donneurs, de la part des bailleurs de fonds. Et c'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui, tous les ans, ou plus exactement tous les 3 ans, font un chèque à la Banque mondiale en disant voilà combien on vous donne pour gérer ce programme de AIDA. Donc c'est un modèle qui est différent dans la mesure où il n'y a pas de coût financier de la part pour la banque. Alors, la façon dont il est géré, c'est la même chose. À une petite exception près, c'est qu'il y a une étape intermédiaire qui est de choisir l'allocation de la somme totale obtenue par ce biais-là, des bailleurs de fonds nationaux, de l'allouer entre pays, et ensuite, à l'intérieur de chaque pays, de choisir des projets d'investissement. Alors, il y a une allocation entre pays qui, au début, était une allocation qui résultait d'une discussion au conseil d'administration qui était essentiellement de type politique ou diplomatique. Et puis, au fur et à mesure du temps, ces gens ont décidé d'établir une formule. Et il y a vraiment une formule mathématique, un peu compliquée d'ailleurs. Il y a une sorte de racine carrée qui intervient quelque part dans la formule, on se demande pourquoi. Mais qui est basée sur la gouvernance, la qualité des institutions dans le pays, la pauvreté dans le pays, évidemment, et la taille du pays, et puis un certain nombre d'autres caractéristiques. Sur cette base-là, on alloue la somme totale disponible entre les pays, et puis la Banque mondiale s'occupe de gérer ces prêts, ces sommes à l'intérieur du pays. Au début, encore une fois, gérer des projets, et puis, comme pour les pays à moyen revenu, dans les années 80, le choc économique. Ces pays à faible revenu, eux-mêmes s'étaient endettés, se sont retrouvés très endettés et se sont retrouvés dans des situations de cessation de paiement. Intervention du Fonds monétaire, ajustement structurel par la Banque mondiale. Donc de ce point de vue-là, on a un parallèle absolument complet entre les pays à revenu moyen et les pays à bas revenu couverts par AIDA. Donc ce n'est pas la peine de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème du biais bureaucratique, le problème de l'application un peu aveugle de recommandations trop simplistes, s'applique aussi bien dans ces pays que dans les pays émergents. D'un certain point de vue, on pourrait se dire que c'était presque plus grave dans ces pays à bas revenus, parce que les implications en termes de pauvreté, de taux de croissance qui n'étaient pas satisfaisants étaient bien plus graves. En fait, si on prend le cas de l'Afrique, ça n'est pas la seule explication aux performances très décevantes de l'Afrique dans les années 80, mais c'est l'une des explications. Il faut même voir que, en moyenne, les pays africains ont constaté une chute du produit par tête depuis à peu près la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Donc c'est 15 ans de perdu. On a parlé des années 80 comme étant la décennie perdue du développement. En fait, c'était plutôt, je ne sais pas comment on parle, de, je ne sais pas quel est l'équivalent de décennie pour 15 ans, mais c'est plutôt sur 15 ans. C'est plutôt 15 ans qui ont été perdus. Et en même temps, s'est passé un autre phénomène, qui est l'assèchement de l'aide publique au développement. Pourquoi ? Pour des raisons complètement politiques. 89, fin de la guerre froide, quel est l'intérêt pour les bailleurs de fonds développés de continuer à alimenter des budgets dans les pays en développement, dans les pays pauvres ? Quel est l'intérêt de continuer à essayer d'acheter une certaine bonne volonté dans des instances internationales du type Nations Unies de la part de ces pays-là ? Alors, on peut croire que c'est quelque chose de rhétorique, pas du tout. On constate effectivement qu'à cette époque-là, l'aide a énormément diminué. Si vous regardez les chiffres de la Banque mondiale, vous avez de nouveau ici les prêts ou les opérations brutes. La courbe du bas orange, qui sont les opérations brutes de la Banque mondiale au titre de l'Association internationale du développement, au titre de AIDA, et vous pouvez constater que dans les années 90, vous avez pratiquement une stagnation. Bon, cette courbe est croissante, l'aide publique au développement a tendance à croître au cours du temps, et puis il y a vraiment un coup d'arrêt qui est donné dans les années 90. Et si on devait ramener ces chiffres-là au niveau de produits ou de revenus nationaux des bailleurs de fonds, on constaterait que la proportion, évidemment, diminue. Donc, les années 90, ça correspond à un recul en termes relatifs de l'aide au développement. Ça correspond à une stagnation en termes absolus de l'aide au développement. Et ça représente donc des activités de la part de la Banque mondiale qui sont en stagnation. J'ai peut-être pas insisté tout à l'heure, je voulais le faire, j'ai été trop vite, ma pensée a été trop vite. Je voulais faire une distinction, mais je vais la faire maintenant, entre des flux bruts et des flux nets. Quelle est la distinction ? Elle est vraiment très importante. Je disais tout à l'heure, la Chine emprunte tous les ans 2 milliards de dollars à la Banque mondiale. Oui, mais en même temps, la Chine rembourse tous les ans des emprunts qu'elle a faits précédemment. Donc, si vraiment on veut voir quelle est la contribution d'un organisme comme la Banque mondiale au financement du développement, il faudrait faire la part des deux. Il faudrait d'un côté dire, voilà ce qu'elle prête aujourd'hui, mais voilà ce qu'on lui rembourse d'hier, et regardez ce qui se passe en termes nets. Si on fait ça, c'est ce qu'il y a sur cette courbe-là. Vous voyez que la courbe en rose qu'on a là, c'est les prêts nets au développement, aux pays à moyen revenu faits par la Banque mondiale. Vous constatez qu'en 2002, ça devient négatif. Donc de 2002 pratiquement à 2009, la Banque mondiale a reçu de l'argent de la part des pays du Sud, donc de la part des pays à moyen revenu auxquels elle avait prêté de l'argent précédemment. C'est le retour, le remboursement du principal. Et si vous regardez maintenant la courbe orange, qui est la même chose sur AIDA, vous vous rendez compte que non seulement il y a une stagnation durant les années 90, mais vous voyez qu'il y a une légère baisse qui a lieu vers 2000-2001. De nouveau, c'est exactement le même phénomène. Il y a des remboursements qui sont un peu plus importants, ce qui fait qu'au total, le flux net diminue. Et cette distinction est relativement importante. Elle montre bien qu'en termes d'importance dans le financement du développement mondial, cet organisme international perd de l'importance Et c'est un élément qu'il faut garder en tête. J'en reviens à Haïda. Donc, voilà la situation dans les années 90, assèchement, arrive les années 2000, et là, il y a un retournement qui a lieu, et c'est un retournement qui est extraordinairement important. Le retournement, c'est 2000, la déclaration du millénaire aux Nations Unies. Donc j'ai dit au début, les Nations Unies ne jouent pas un rôle très important. Là, oui, elles jouent un rôle politique absolument capital. La déclaration du millénaire, c'est finalement un accord entre les nations du monde pour faire renaître une stratégie de développement et de résorption de la pauvreté qui soit efficace. Et c'est à ce moment-là que les Nations Unies lancent ces fameux objectifs du millénaire de développement, qui sont la réduction de la pauvreté de moitié entre 1990 et 2015, la diminution de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que c'est en même temps un coup de fouet qui est donné aux bailleurs de fonds pour augmenter de nouveau l'aide publique au développement. Mais en même temps, c'est une remise en cause du modèle de collaboration entre bailleurs de fonds et bénéficiaires de l'aide au développement. Et cette réflexion, elle a été principalement menée par ces organismes financiers, donc les banques régionales de développement et la Banque mondiale de développement. La conférence importante, c'est la conférence de Monterrey qui a eu lieu en 2002, qui est une conférence dans laquelle une sorte de contrat, de nouveau contrat entre donateurs et bénéficiaires a été signé, par lesquels on reconnaît le principe de subsidiarité, dans lequel on reconnaît que ce sont les bénéficiaires qui doivent décider de leur stratégie de développement, et donc on oublie toute la partie de la conditionnalité du consensus de Washington, etc., qui avait dominé la fin des années 80 et des années 90. Cette fois-ci, on reconnaît que ces stratégies doivent être le fait des pays qui veulent se développer, et que, au vu de ces stratégies, ce sont les donateurs qui peuvent décider de financer plus ou moins la stratégie qui leur est présentée. C'est un nouveau modèle qui est lancé dans le début des années 2000, qui est encore un modèle qui est pas à l'essai, qui n'est pas encore complètement arrivé au résultat ou à un état tel qu'on puisse l'évaluer de façon définitive, mais c'est certainement une modification relativement importante de la façon dont on gère l'aide au développement. Aujourd'hui, donc on est quelques années après cette conférence de Monterrey, qui a été suivie par d'autres conférences essayant d'analyser toujours, de rendre l'aide, l'utilisation de l'aide publique au développement plus efficace, et toujours avec la partie économique, les économistes de la Banque mondiale qui étaient les porteurs des initiatives, des innovations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a de nouveau un débat très important, très fort, très vigoureux, disons, entre économistes sur l'efficacité de l'aide. J'ai résumé ça ici en disant c'est Easterly contre Sachs. Il y a un économiste ancien de la Banque mondiale, Bill Easterly, qui a quitté la Banque mondiale avec un certain fracas, qui est aujourd'hui à la New York University, et qui est un grand critique de l'aide au développement, qui, purement et simplement dit, ça ne sert strictement à rien, ça n'a absolument pas permis de diminuer la pauvreté. La preuve, c'est que malgré l'aide au développement, il y a encore tant de pauvres dans le monde, et on a dépensé des milliards et des milliards, il y a toujours des pauvres. C'est un argument un petit peu difficile, parce que peut-être savoir combien il y aurait de pauvres, effectivement, si on n'avait pas dépensé ces milliards en aide. Donc il y a un problème dans la logique de l'argumentation. Mais c'est pour montrer la vigueur du débat. Easterly va même jusqu'à dire, en fait, l'aide a même un impact négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'elle contribue à la corruption des élites dirigeantes dans ces pays-là, parce qu'elle élimine la relation démocratique entre des contribuables qui, d'une façon ou d'une autre, vont payer des dépenses publiques et les gouvernements qui vont dépenser cet argent, puisque ce sont des externes, la source de financement est extérieur, et donc ça a un impact négatif. De l'autre côté, on a quelqu'un comme Jeff Sachs, qui lui est à Columbia University. C'est intéressant d'ailleurs parce que à New York, ils sont tous les deux à New York, mais Columbia est vers le nord de Manhattan, alors que près des pauvres, c'est vrai, mais c'est le nord. Mais c'est un affrontement nord-sud dans lequel les pauvres sont plutôt du côté du nord. Et donc ça, je dis non, on a absolument besoin de tant de milliards de dollars pour aboutir et pour atteindre les objectifs de développement du millénaire. Il a été dans un certain nombre de pays, il a fait le calcul, il a dit voilà, il faut tant de sacs d'engrais, il faut tant de dispensaires, il faut tant de médicaments pour combattre le sida, etc., etc. Donc voilà combien il faut. Et c'est vraiment deux visions complètement différentes qui s'opposent aujourd'hui. Et ce débat n'est pas un débat académique, parce que, étant donné la situation budgétaire dans laquelle se retrouvent beaucoup de pays développés, il est évident qu'il y a une grande tentation pour beaucoup d'entre eux de diminuer l'aide qu'ils donnent au développement. Alors, dans certains cas, il y a une volonté affichée de maintenir l'aide. Les Anglais, par exemple, malgré l'annonce d'une rigueur accrue, ont bien indiqué qu'ils tiendraient leurs engagements en termes d'aide au développement. Les Français le font de façon un petit peu plus hypocrite, en disant « Oui, on va tenir, mais on aimerait bien qu'une grande partie de ce financement soit finalement du financement international, comme on a fait avec les taxes sur les billets d'avion. » Le discours du président Sarkozy aux Nations Unies était sur une taxe sur les transactions financières, dont on sait très bien que la probabilité qu'elle soit mise en œuvre dans les 10 ans qui viennent est extraordinairement faible. Mais donc c'est là que je trouve qu'il y a un côté un petit peu hypocrite. Mais ce problème existe. Et un autre problème qui vient de se créer à cause de cette rareté de raréfaction des ressources budgétaires, c'est l'arbitrage entre bilatéral et multilatéral. Et le fait que dans beaucoup de pays, les politiques se disent, mais finalement, quel profit nous tirons de l'aide que nous donnons à des pays pauvres quand on passe par les multilatérales, quand on passe par la Banque mondiale, quand on passe par la Banque africaine de développement, etc. Les pays ne le voient pas, les pays ne voient pas que l'Allemagne, l'Italie ou la France ont donné tant, et donc finalement nous tirons aucun bénéfice de cet exercice. Alors, c'est une question qui est presque éthique, mais il y a une époque où on parlait de ce qu'on appelait l'aide liée, c'est-à-dire que les donateurs disaient aux pays, on vous met telle somme à votre disposition si vous employez des entreprises de notre pays, si vous importez des produits de chez nous, etc., etc. C'est un point sur lequel les donateurs qui sont réunis dans le comité d'aide au développement de l'OCDE ont décidé d'abandonner. Donc, on sent bien aujourd'hui qu'il y a une remise en question de ces principes. Et ce qui est relativement grave, c'est que la faculté, le potentiel de réflexion dans ce domaine-là, il est du côté multilatéral. Du côté bilatéral, c'est assez difficile d'organiser une réflexion d'ensemble sur les mécanismes économiques qui vont effectivement permettre d'utiliser l'aide de façon plus efficace pour les bénéficiaires, plutôt que de façon plus efficace pour ceux qui donnent de l'aide. Il y a un autre point qui devient extraordinairement important, c'est le rôle de la gouvernance. Dans le nouveau modèle dont je parlais tout à l'heure, le modèle Monterrey, un contrat passé entre des donateurs et un bénéficiaire sur une stratégie de développement, pratiquement sur le fait que les donateurs vont donner des ressources sous la forme de soutien budgétaire, sans dire « voilà la façon dont on veut que vous utilisiez cet argent-là ». Ce type de contrat ne peut se passer qu'avec des pays qui ont une gouvernance, qui ont des institutions qui sont relativement satisfaisantes. Quand on est dans un pays dans lequel ces institutions n'existent pas, dans lequel on a des gouvernements qui ont très très peu de pouvoir sur leur propre administration, des pays dans lesquels on sait que la malversation est monnaie courante et dans lesquels on sait que si on essaie de transférer par l'intermédiaire du gouvernement une certaine somme d'argent, 50, 60, 80% vont plus ou moins simplement disparaître dans le processus. Ces pays, c'est ce que les donateurs ont appelé les pays fragiles, simplement parce que justement, il n'est plus possible il n'est pas possible de passer le genre de contrat, de nouveau contrat de relation entre bénéficiaires et donateurs qui a été mis au point à cette conférence de Monterrey. Et le vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que finalement, on a probablement un nouveau modèle d'aide qui est plus efficace, certainement beaucoup plus efficace que ce qui a été fait au titre de l'ajustement structurel et du consensus de Washington, qui tient compte de la subsidiarité, de l'importance des bénéficiaires et de leur autonomie dans le choix d'une stratégie de développement, qui permet d'exploiter l'expertise technique disponible chez les donateurs et en particulier dans les agences multilatérales. Mais ces pays-là, parce qu'ils ont des institutions, des gouvernances qui sont meilleures que les autres, en même temps sont probablement des pays qui ont moins besoin d'aide que les autres. Parce que ce sont des pays dans lesquels, finalement, les taux de croissance sont un peu plus rapides. Ce sont des pays dans lesquels la pauvreté va probablement se résorber de façon beaucoup plus rapide. Des pays comme ça, il en existe. Le Ghana est certainement le pays qui est le plus cité, mais on parle de la Tanzanie, on parle de l'Ouganda, du Mozambique. À une époque, on parlait du Sénégal. Malheureusement, le Sénégal semble être parti dans une dérive dont on ne sait pas trop bien comment il va s'en sortir. C'est lié évidemment à l'approche des élections présidentielles. Mais il y a donc des pays qui, effectivement, ont fait des efforts considérables et montrent une résilience par rapport à la crise, montre une capacité de gestion qui est tout à fait satisfaisante. Mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est très difficile de savoir. Et même des pays qui étaient solides à une certaine époque le sont moins d'autres. Je parlais du Mozambique. Le Mozambique a été un exemple de développement après la fin de la guerre civile dans les années 90. Depuis 2 ans ou 3 ans, il est gouverné par un autocrate, comment il s'appelle, Biza, il s'appelle Biza, mais le grand jeu de mots, c'est que les gens l'ont surnommé Business. Et ce qui montre bien l'ambiance qui règne à l'heure actuelle au Mozambique. Donc ça, c'est extraordinairement difficile à gérer, et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler les yeux. On a un problème, on ne peut pas dire que l'aide accordée à ces pays-là est complètement efficace. On sait qu'il y a une déperdition. Est-ce qu'à cause de ça, il faut complètement arrêter? Je suis en train de tout casser. Il faut tout arrêter. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Donc, ça, c'est le débat dans lequel on est. Dernier élément de ce débat, il y a l'opposition macro-micro. Deux dernières remarques. L'opposition macro-micro, les critiques de l'aide au développement le font sur un mode plutôt macroéconomique, en disant macroéconomiquement, on ne voit pas de rapport entre l'importance de l'aide au développement et le taux de croissance d'un pays. Il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est le cas. Il est évident que si on investit dans l'éducation, on ne va pas voir le résultat d'un investissement éducatif sur la croissance avant 20 ans, 25 ans, le temps en tout cas que les gens qui vont à l'école, les nouveaux élèves dans les écoles aboutissent, arrivent sur le marché du travail. Donc, beaucoup de gens disent qu'il faut oublier le côté macro, il faut uniquement se concentrer sur le côté micro, il faut faire de l'évaluation des programmes microéconomiques et arriver à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est très bien, c'est excellent de faire de l'analyse microéconomique de ce point de vue-là, c'est très très bien de dire on est en train d'identifier des programmes qui ont l'air de marcher dans différents contextes et selon différentes déclinaisons, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse arriver à gérer la totalité de l'aide au développement sous ces formes-là. Évaluer de façon expérimentale les effets d'un barrage, d'une route majeure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'un point de vue expérimental. On ne va pas construire un bout de route formidable entre deux localités absolument prises au hasard en disant, tiens, est-ce que cette route, ça a des effets de développement ou non. Il est évident qu'on va choisir des localités telles qu'il y aura une synergie à travers la route entre ces localités. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à l'heure actuelle dans la profession. De nouveau, la Banque mondiale, les économistes qui y sont, notamment dans le département de recherche, qui compte une centaine d'économistes, travaillent énormément là-dessus, mais je ne crois pas que ce soit la solution définitive au problème de l'efficacité de l'aide. Et un dernier élément qui est important, c'est les nouveaux donneurs. Et de nouveau, on a parlé de la Chine tout à l'heure comme étant bénéficiant de prêts de la Banque mondiale. En même temps, la Chine est un donateur important, avec une très grande présence, notamment en Afrique. Une présence qui est un type d'aide qui est tout à fait le genre d'aide de liée qui existait dans les pays avec les pays développés il y a 20 ou 30 ans. Et qu'on a relativement banni. Mais l'idée que le gouvernement chinois peut dire à un pays on va vous construire des routes, on va construire des lycées, on va construire des gymnases ou des stades, et en échange, vous nous garantissez un approvisionnement en matières premières, ou vous nous garantissez un contrat de location de terres pour les 99 prochaines années, c'est quelque chose que, normalement, on a banni donc, dans les pratiques d'aide des pays de l'OCDE. Mais ce qui est important dans la présence chinoise, c'est le fait que, justement, c'est presque elle qui remet en question l'intérêt des donateurs. Je crois qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on remet en question le multilatéral en faveur du bilatéral. C'est à cause de ça. C'est que, sur place, les diplomates voient bien que les gouvernements écoutent beaucoup plus facilement, ont une oreille beaucoup plus attentive à ce que disent les Chinois par rapport à ce que peuvent dire leur propre gouvernement. Donc, certainement, c'est quelque chose qui est en train de bouger à cause de cette évolution. Je conclue en simplement quelques points de résumé. Efficacité de ces organismes internationaux, Banque mondiale et associés. Je crois qu'au niveau macroéconomique, on ne sera jamais capable de pouvoir attribuer un résultat particulier à l'action de ce type d'organisme. La Banque mondiale adore faire ça. Elle a un organisme qui est supposé être un organisme indépendant d'évaluation, qui de temps en temps, enfin qui même tous les ans, sort un rapport dans lequel ils essayent d'évaluer l'activité de la banque et ont tendance, fâcheusement, à attribuer à la Banque mondiale tous les résultats positifs d'un pays et à d'autres causes tous les résultats négatifs. Il est évident que c'est très compliqué de comprendre les mécanismes qui déterminent la croissance. Arriver à déterminer ce en quoi un agent extérieur particulier peut être responsable dans le processus de croissance est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Par contre, le côté expertise technique, le côté microéconomique, efficacité des opérations au niveau microéconomique qui sont conduites par des donateurs, qui sont conduites par ces organismes internationaux, là oui, il y a effectivement quelque chose d'extraordinairement important et de réalisable, et qui repose sur les capacités d'analyse économique qui sont présentes dans ces organismes. Je crois qu'il ne faut pas non plus se cacher l'importance du politique dans le développement. Quand je suis arrivé à la Banque mondiale, je suis arrivé comme un bon économiste en me disant « le développement, c'est un problème économique ». J'en suis sorti en me disant « le développement, c'est un problème politique ». Et c'est une simplification. Il y a évidemment des éléments économiques formidablement importants, mais s'il n'y a pas la volonté politique de développer une communauté, alors absolument rien n'est possible. Et de ce point de vue-là, les organismes internationaux peuvent avoir un rôle relativement important, justement à cause de leur importance financière. Quand vous êtes dans un pays dans lequel la Banque mondiale, la Banque africaine et quelques autres très gros donateurs amènent à peu près 30, 40, 50% du budget de l'État, il est évident que ces organismes peuvent jouer un rôle politique. C'est compliqué, puisqu'effectivement on touche à la souveraineté des États, mais c'est quelque chose qui est important et qu'on ne peut pas dissimuler. L'expertise technique est, de mon point de vue, l'élément le plus important de ces organismes. Je crois que, de plus en plus, on va dans la direction non plus d'une banque ou de banque de développement, mais dans la direction d'agence de développement, dans lequel il est possible de combiner expertise technique avec moyens de financement et où il y a une sorte de cercle vertueux par lequel ces organismes, en participant à des projets ou à des programmes de développement qu'ils financent en partie, apprennent sur la meilleure façon de gérer ces programmes ou de gérer ces projets, et pour être capable de diffuser cette connaissance dans d'autres contextes en évitant l'écueil auquel ils se sont heurtés dans le passé, en évitant cette idée d'une uniformité de tous les contextes. Mais je crois que là, il y a une réserve de connaissances qui est absolument considérable, et je voudrais être sûr que dans le futur, cette réserve sera correctement utilisée. Je pense que malheureusement, des réformes sont nécessaires dans la façon dont ces organismes sont gérés pour qu'effectivement ces réserves soient utilisables. Et avec un petit peu de retard, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.